Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mardi 8 août 2023. On sait qu'en général, le mois d'août n'est pas le mois le plus excitant lorsque l'on parle d'investissement. La plupart du temps, les traders et autres investisseurs sont à moitié en vacances et aiguisent leurs esprits et leurs claviers en prévision de la rentrée scolaire. À l'heure où je vous parle, la seule certitude que nous ayons, c'est le fait que nous sommes en août et que les volumes sont misérables. Pour le reste, on brasse de l'air presque autant que d'habitude en mélangeant à peu près toutes les news qui nous tombent dessus afin d'essayer d'en tirer des conclusions pour l'avenir de nos investissements et les prochaines décisions de la Fed, parce que c'est important d'anticiper la Fed. Lorsque l'on regarde les performances des marchés hier, on peut déjà se dire que les Européens sont vraiment en vacances et que les volumes sont pathétiquement misérables. Mais c'est pas grave, parce que même s'il ne se passe rien sur le marché, on a toujours des choses à se dire et des histoires à raconter pour se projeter dans l'avenir, histoire de déjà se chauffer pour la rentrée. Hier, la question était de savoir s'il était temps d'acheter sur faiblesse, puisque la semaine dernière, nous avions enfin réussi à enquiller quelques séances de baisse. Malgré le fait que de plus en plus de monde est convaincu que nous sommes dans un bull market séculaire, les récents retournements de veste de JP Morgan et de Bank of America ont été rejoints par l'analyste technique de Royal Bank of Canada qui annonçait que le S&P 500 allait toucher les 14 000 d'ici 2034. Oui, vous avez bien lu, bien entendu, pendant que le CIO de Morgan Stanley continue de hurler à la mort et de prévenir les investisseurs que ça ne peut pas durer et que l'on va s'en prendre une magistrale en travers de la figure, et qu'il nous aura prévenu, bien qu'il soit un des derniers irréductibles analystes à croire encore que ça pourrait éventuellement baisser, voici que le technicien de RBC nous invente un target 10 000 points plus haut pour dans 11 ans. Moi qui croyais que les délires au niveau des prévisions étaient réservés aux experts en crypto, je suis tombé de haut. Du coup, on en a profité pour se dire que finalement, ça se passait pas mal cette saison trimestrielle, puisque avant les publications de Disney de demain, nous en sommes à 84% des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats pour le Q2 et que 79% d'entre elles ont fait mieux que les attentes, ce qui, en plus, est supérieur à la moyenne sur 5 ans, 77%, et à la moyenne sur 10 ans, 73%. Autant vous dire que l'on doit se sentir privilégié de vivre dans un monde où l'économie est si parfaite et où le gouvernement américain continue de s'endetter comme si ça ne coûtait rien et où l'inflation est tellement bien sous contrôle. Les indices ont donc plus ou moins terminé en hausse. Le Dow Jones a même vécu sa meilleure séance depuis 7 semaines, ce qui, vous l'avouerez, est une sacrée statistique qui vaut la peine d'être signalée. Mais en plus, cette relativement belle journée de rebond aux USA après une sale semaine, on est bien également content de voir que l'on est en train d'ébaucher de nouveaux scénarios pour ces prochains mois. Oui, en effet, depuis quelques semaines, nous étions tellement obsédés par ce qu'allait faire la Fed que nous avions renoncé à prendre des paris sur les prochaines baisses des taux à venir. Pourtant, hier, après le discours de Monsieur Williams, de la Fed, qui a laissé entendre que pour le moment, ça n'était pas le moment de parler de hausse ou de baisse des taux, mais qu'il ne voyait pas ce qui empêcherait de voir une baisse graduelle des taux, dans la seconde partie de 2024. Mais les experts à Wall Street ont immédiatement interprété la chose en entendant uniquement ce qui les intéresse, à savoir la baisse des taux. Dans les minutes qui suivirent, il était presque impossible de tomber sur autre chose qu'une nouvelle qui disait que la majorité des experts de Wall Street s'attendent dorénavant à voir une Fed qui ne monte plus les taux en 2023 et qui va commencer à les baisser graduellement en 2024. Quelle surprise! Nous voici donc tous d'accord sur le fait que les taux vont commencer à baisser dans 11 mois et que dans 11 ans, le S&P 500 aura triplé. C'est rassurant d'avoir une vision long terme. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier que ce scénario devrait fonctionner sans accroc, pour autant que les chiffres de l'inflation de jeudi ne soient pas trop mauvais, sinon ça pourrait tout remettre en question. Il faut dire que l'on attend quand même un rebond de l'inflation mensuelle à cause de l'énergie, mais la version annualisée devrait rester stable. Enfin, normalement. Tout ça pour dire que l'on sait très bien où l'on va en 2034, mais on n'est pas très sûr de nous en ce qui concerne les 72 prochaines heures. Ce matin, les chiffres de la balance commerciale chinoise étaient encore une fois en dessous des attentes des économistes et pire que le mois dernier. C'est surtout les données des exportations qui démontrent que c'est pas l'euphorie. Et pas qu'en Chine, puisque si ça exporte moins, ça veut dire aussi que nous, on achète moins. Les indices de la région réagissent de façon dispersée. La Chine ne fait rien, comme si plus rien ne l'intéressait. Le Japon est légèrement en hausse et Hong Kong, qui est en première ligne quand la Chine s'enrhume, se prend 1,36% dans les dents. Le pétrole est à 82,06, l'or à 1967 $ et le bitcoin se traite à 29 200. Dans les nouvelles du jour qui émaillent la finance, on retiendra la démission du CFO de Tesla. La nouvelle est surprenante puisque, comme le disait un média américain, c'est le seul adulte qui restait encore chez Tesla. Apparemment, Zachary Kirkhorn aurait fait assez d'argent pour prendre sa retraite à 39 ans et aurait mentionné son intention de le faire à Musk, ce à quoi Musk lui aurait demandé de réfléchir et de reconsidérer. Et Kirkhorn serait revenu quelques jours plus tard avec la même position depuis Musk ne communique à son sujet uniquement sur Twitter ou sur X. La réaction du marché a été étonnamment modérée puisque le titre ne perdait que 1% en clôture. Puisqu'on est en août et qu'il n'y a pas des tonnes à décortiquer, si ce n'est de parler de la météo pourrie malgré le réchauffement climatique, on notera que les 6 personnes les plus riches du monde sont à quelques milliards de peser 1000 milliards à eux 6. Hier matin, la fortune cumulée de Musk, Gates, Bezos, Buffett, Ellison et Arnaud atteignait la modique somme de 969 milliards de dollars. Et pendant ce temps, Zuckerberg et Musk ont confirmé leur combat dans une cage de MMA pour le 26 août. Combat qui sera retransmis sur Twitter ou sur X, c'est selon que l'on ne vienne pas me dire qu'ils ne sont pas complètement débiles. Autrement, on retiendra les excellents chiffres publiés hier par Berkshire Hathaway, qui est dorénavant au plus haut de tous les temps. Il y a aussi eu les chiffres de Palantir qui étaient en ligne. Le titre montrait 2% after close suite à l'annonce d'un rachat d'actions de 1 milliard. Et personne ne sait vraiment ce qu'ils font, mis à part bosser pour la CIA, bien sûr. Il y a aussi Lucid qui a foiré son trimestre mais qui ne faisait rien. Et puis Sage Therapeutics qui s'est fait exploser de 53% après le refus de la FDA de valider un médicament contre la dépression postpartum. L'action se traitait à 16 $ alors que le titre valait 60 $ le 12 juin. Mais personne ne savait rien, bien sûr. Autrement, il ne reste plus très longtemps à patienter. L'iPhone 15 sortira mi-septembre. Ouf, quel soulagement. Et puis pour terminer, on notera que PayPal a lancé le premier stablecoin émis par une institution financière américaine. Le petit nouveau se nomme PayPal USD. On voit clairement qu'ils ont bossé côté branding. Côté chiffres du jour, nous aurons Eli Lilly, Novavax, UPS, Rivian, Twilio ou encore Luminar. Et puis pour ce qui est de la macro, nous aurons le CPI en Allemagne. En guise d'échauffement pour jeudi, et ensuite il y aura le trade balance aux USA en espérant qu'il ne soit pas aussi mauvais qu'en Chine. Mais ça ne devrait pas être le cas puisque les USA sont les gentils et que les Chinois, c'est les méchants. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,2%, plus que 0,3% de plus pour que le rachat sur faiblesse se mette en place. Pour le reste, passez une excellente journée et on se retrouve demain matin.